6h01, nous sommes mardi 26 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, 3 journées de chaleur, c'est ce qui était prévu, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que pour aujourd'hui, on prévoit soleil et nuages avec 40 % de probabilité d'averse quand même au cours de l'après-midi, avec des vents jusqu'à 40 km/h. Le maximum aujourd'hui, 32, l'humidex est à 37 et l'indice UV est à 9, ce qui veut dire très élevé. Déjà ce matin, ça tourne autour de 16 ou 17 degrés. Pour ce qui est de demain, c'est 34, le maximum prévu. Ensoleillé le matin tôt et en après-midi. Il y a toujours, parce que c'est très humide, un risque de pluie, d'averse durant la journée. L'humidex demain, là, c'est autour de 41. Et on prévoit un minimum de 22 pour la nuit. Puis finalement, pour ce qui est de jeudi, on prévoit encore là du soleil, quelques nuages, 31 degrés. Et ça va commencer à baisser vendredi, mais avec des averses au menu, 25 degrés. Pour le week-end, c'est le temps frais qui va s'installer. Là. Temps frais, évidemment, c'est relatif. Mais disons, samedi, du soleil 20. Et dimanche, on prévoit du soleil et 18 degrés. Alors, c'est sûr, ça fait 3 jours intenses en termes de chaleur. Et la question depuis quelques jours, et ça s'est accentué hier, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes dans les CHSLD? D'abord, toute la journée hier, et vous avez été nombreux à m'écrire, là, vous avez des proches, des amis, des parents, et dans plusieurs cas, il y a par exemple des systèmes de location de climatiseurs qui sont prévus. Dans d'autres cas, il y a des gens qui ont eux-mêmes un ventilateur à aller porter ou à la remettre pour que la personne puisse avoir un peu de fraîcheur. Et donc, toute la journée, on a attendu l'avis de la santé publique. Et c'est tombé hier. Et finalement, il n'y a pas de directive claire qui est donnée. Ça veut dire que dans chacun des établissements, ce sera du cas par cas. On laisse à chacun, donc, des gestionnaires, la responsabilité de déterminer si on peut utiliser ou pas les fameux climatiseurs mobiles, les ventilateurs. Pourquoi on laisse ça ouvert? Parce qu'il n'y a pas de données qui existent dans ce contexte actuel de COVID sur l'utilisation de ces appareils de ventilation. Alors, on a peur de quoi? On a peur que les gouttelettes puissent être propulsées. Il y a des préoccupations dans les écoles, les profs également. Si on fait le tour rapidement dans les différentes régions du Québec, on voit qu'il y a des syndicats de professeurs aussi qui disent, ben, on fait quoi dans nos écoles mal ventilées où il va faire très chaud? Il semble donc qu'on n'a pas de données probantes à fournir là-dessus. J'écoutais le docteur Arruda et d'autres qui disaient, on ne sait peut-être pas jusqu'à quel point le virus peut se propager par ces ventilateurs ou ces appareils de climatisation. Mais l'idée, en tout cas, c'est peut-être de faire en sorte qu'il n'y ait pas un jet d'air directement sur la personne. Alors, on peut peut-être essayer de climatiser de façon indirecte une pièce. On sait que dans les centres de soins de longue durée, il y a des aires de rafraîchissement, mais ça veut dire aussi déplacer les personnes. Alors, il n'y a pas 56 000 solutions. Et on verra comment ça va s'appliquer. Puis beaucoup de parents sont inquiets, là, qui se disent « Ma mère est déjà confinée. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel, exemple. Sa mère vient d'être testée, là, négatif après avoir été COVID positive. Elle est dans sa chambre. Elle ne sort pas. Il fait chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Alors, c'est pas comment on va s'organiser dans les établissements. La seule bonne nouvelle dans ça, c'est que ça dure 3 jours. Là. On n'est pas dans une période de 6 jours. Et c'est vrai pour les patients, pour les résidents, mais c'est aussi vrai pour les membres du personnel là, qui doivent porter les pièces d'équipement, puis les masques, puis les visières. Alors, pour l'instant, c'est ça. On doit, c'est ce que Mme Mécan a dit, s'assurer qu'il y ait au moins une aire climatisée, une pièce commune. C'est que ce n'est pas l'idéal dans le contexte actuel, mais donc dans 100 % des établissements. Puis là, on nous a dit hier qu'on prévoit devancer le plan d'implantation d'équipements qui était prévu pour le mois de juin. Hier, là, j'écoutais ça, là, puis je me disais, c'est incroyable. À tous les ans, on sait qu'il y a des périodes de canicule. À tous les ans, on nous met devant un fait. les vieilles infrastructures pour s'occuper des aînés. Tu sais, quand tu dis que tu ne peux pas mettre un toaster dans une place, sinon tu risques de faire sauter l'ensemble des circuits, là. Tu sais, c'est tellement vieux, ça a tellement été négligé dans plusieurs endroits. Mais comment ça se fait qu'on ne pense pas à déployer ça fin avril, début mai? D'abord, des périodes de chaleur, c'est pas fréquent à tous les mois de mai, mais on serait prêt. Non, nous autres, c'est comme s'il faut vraiment attendre à la dernière minute tout le temps. Et on sait qu'il y aura une enquête, probablement, là, quelle sera la forme exacte sur les centres de soins de longue durée. Mais je regardais ce matin dans le Globe and Mail, on donne des détails. Et vous lisez ça, et c'est le même genre de décision ou de non-décision prise en Ontario. Et là, on sait qu'il y aura là-bas une enquête publique sur, justement, la façon dont ça a été géré. Et confinement, pas confinement, des avis qui ont été mis de côté concernant, justement, toute la gestion de ces installations. Alors, il n'y a pas qu'au Québec, mais il y a eu des erreurs graves au Québec, que ce soit pour ce qui est de commander des équipements. On a tardé. On voyait peut-être pas l'urgence à ce moment-là, alors que d'autres provinces ont agi plus rapidement. Deuxièmement, on le sait, la gestion serrée de ces équipements a fait en sorte que des employés n'ont pas eu accès au matériel de protection. T'sais, je ne referai pas toute la liste, mais je regarde ce matin le Globe and Mail. L'enquête en Ontario, là, se penche exactement sur les mêmes types de problèmes. Alors, vous allez retrouver ça dans l'ensemble de vos quotidiens. Et pour ce qui est du nombre de décès, ben, on dépasse les 4000 au Québec. Et là, je comprends qu'on peut me dire que la méthode comptable varie d'un endroit à l'autre, là. Mais je prends le tableau ce matin qui est dans le Journal de Montréal, mort par million d'habitants. On est dans le top 5, là. La Belgique est en première place, 804 décès par million d'habitants. L'Espagne, 660. Royaume-Uni, 544. L'Italie, 544. Puis le Québec, 479. Et on ne peut pas juste dire, ben, excluons les personnes âgées ou très âgées. Ça fait partie du bilan. Et encore hier, tu sais, un nombre élevé de décès. Bon, la moitié datait d'avant la journée de la veille, là. Mais quand même, c'est 4000 morts, pareil. T'sais, des fois, il faut juste prendre le temps de s'y arrêter et dire, il y a quand même 4000 personnes qui sont décédées. Et pour ceux qui se questionnent tout le temps, là, oui, il y a des gens qui meurent chaque jour dans les CHSLD au Québec. Mais ce qu'on remarque depuis le début, c'est que pour la période, en tout cas mars, avril, et on aura les données pour le mois de mai, c'est plus intense. Le nombre de cas est plus élevé. Donc, c'est pas comparable avec la grippe. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup dire ça, là, mais c'est pas vrai. Il y a eu plus de cas, plus de gens qui ont été contaminés. Puis il y a eu des gens qui ont été contaminés et pour qui, évidemment, ça s'est bien passé. Donc, qui n'ont pas eu trop de symptômes et qui ont pu quand même, se mettre en pause pendant un certain temps, puis après ça, poursuivre leurs activités. Bon, toujours en ce qui concerne ce dossier-là, si on demeure sur le plan médical, c'est important de faire des rappels. Et un des rappels, c'est de dire que par les plans d'urgence dans les hôpitaux, on a libéré des lits, on a ralenti le travail dans les blocs opératoires, la liste de patients en attente de chirurgie s'est allongée. On parle de 68 000, puis probablement plus. Mme McCann nous dit qu'on va opérer plus, surtout à l'extérieur de Montréal, qu'on pourrait transférer des patients vers d'autres régions. Des ententes avec des cliniques privées pour des chirurgies qui sont moins invasives. Ce matin, dans Le Devoir, et avec raison, puis j'en avais parlé au début, là, on s'inquiète, des spécialistes qui s'inquiètent de se retrouver avec une vague de cas de cancer du sein cet été. Pourquoi? Parce que le programme de dépistage qui concerne les femmes entre 50 et 69 ans est en suspens depuis le tout début de la crise. Donc, on a eu des cas ou des femmes en attente d'un traitement de cancer, d'une chirurgie, ont vu la chirurgie être décalée. En se disant, on va essayer de gagner une semaine, ou on va encore essayer de trouver une alternative, un traitement plutôt que la chirurgie. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a probablement au Québec un nombre X de femmes qui ont le cancer puis qui ne le savent pas. Il n'y a pas eu de dépistage et il n'y a pas eu de diagnostic. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mammographie. Et je cite un des médecins qui dit « Le plus gros problème, ce sont les femmes atteintes de cancer qu'on ne connaît pas. Ces cas vont venir, comment va-t-on les opérer? S'il y a une deuxième vague de COVID, qu'est-ce qui va arriver? » Et c'est sûr que de se mettre en mode de rattrapage, ça va prendre du temps. Et on a beaucoup parlé des patients COVID avec raison, mais il faut aussi parler des patients non-COVID. Donc, des gens qui ont d'autres types de maladies, d'autres types de problèmes de santé ou qui attendent pour des opérations jugées non urgentes. C'est vrai que la machine peut décider que ce n'est pas urgent, sauf que toi, pour ta qualité de vie, pour ton confort, pour ta liberté aussi, ben, tu as hâte qu'on t'opère dans un genou ou tu as hâte d'avoir cette chirurgie qui va te soulager et qui va te permettre de retrouver une vie un peu plus normale. Alors voilà pour tout le volet santé. On va parler avec le Dr Weiss ce matin. On va faire le point sur le COVID. Et il faut dire aussi que c'est sorti hier, là, ça fait encore beaucoup de vagues, mais l'Organisation mondiale de la santé qui a décidé d'arrêter les essais de ce fameux médicament, là, qui est en fait une combinaison, là, l'hydroxychloroquine, parce que non seulement on pense que c'est probablement inefficace, mais qu'en plus ça peut causer un certain nombre de problèmes de santé, problèmes cardiaques, d'arythmie. Et là, vous avez déjà des réactions en Europe, notamment le chercheur français, qui est considéré par certains comme étant un dieu et par d'autres comme étant quelqu'un de dangereux. Alors, Riboud lui dit que ce sont des chiffres tirés d'une analyse où les spécialistes n'ont même pas vu de patient. C'est une analyse statistique et lui demeure convaincu que son médicament peut être utile. C'est le moment de retrouver Marc. On regarde dans quelle direction? Parfait. On va faire un survol un peu des secteurs qui vous intéressent. Commençons par l'éducation ce matin. Là, les parents se demandent comment les camps de jour vont fonctionner cet été. Les parents se demandent comment la rentrée scolaire va s'organiser. Et là, il y a un sondage qui a été fait, vous trouvez dans le Journal de Montréal. On a demandé aux parents quelle est la formule que vous aimeriez si, par exemple, on devait conjuguer l'enseignement virtuel et également présence physique. Là. Je pense que c'est clair qu'il faut qu'au maximum, les élèves primaires, secondaires, là, se retrouvent en classe. Alors, les parents seraient favorables, semble-t-il, à l'école un jour sur deux, si on devait se retrouver avec une formule à temps partiel. Parce que là, on a dit aux parents, parmi les scénarios, voulez-vous que ça soit comme une semaine? Ça peut peut-être vous permettre de vous organiser. Trois jours, deux jours, comment vous souhaitez ça? Alors, les parents, semble-t-il, optent pour ça. Le ministre Roberge, lui, a présenté des scénarios qui prévoient une reprise à temps plein pour tous les enfants, avec des mesures sanitaires accrues. Également, un retour à temps partiel avec des groupes réduits. Puis aussi, il y a d'autres types de scénarios là, qui permettraient donc de partager les élèves. Alors, c'est tout un casse-tête. C'est un casse-tête pour tout le monde. Là. Et là, on attend de voir. Parce que, je vous donne un exemple, il y a une collègue ici qui travaille tous les jours, considérée la radio parmi les services de base là, depuis le début de la crise. Son conjoint travaille également dans ce qu'on appelle des services essentiels. Là, il s'organise, mais comment tu vas faire pour l'école? C'est une semaine, 10 jours, je ne sais pas comment vous vivez ça, comment vous pensez vous organiser, peut-être demander à quelqu'un de venir garder les enfants la semaine où il n'y a pas d'école. Bon, dans le cas des ados, mais en même temps, tu ne veux pas laisser tout le temps un ado de 13, 14 ans tout seul toute la journée. Puis est-ce qu'il va vraiment suivre l'enseignement virtuel pendant cette période-là? Alors, je comprends le questionnement des profs, puis peut-être si vous m'écrivez un peu pour me décrire votre réalité, bien, ça aide à formuler, disons, un certain nombre de questions. Alors ça, c'est pour l'éducation. Pour ce qui est des centres d'achat, ça va rouvrir le 1er juin, mais pas à Montréal, donc à l'exclusion de la zone. Hier, on a rouvert les commerces. Et bon, il y avait des gens qui avaient besoin de magasiner, là, il y avait besoin de sortir, il y avait besoin de prendre l'air, il y avait besoin de socialiser un peu. Et on a fait le tour de certains commerces. Ça varie beaucoup, hein. des gens qui se sont précipités. Je pense entre autres aux 10-30, où les gens attendaient là, puis gardaient la distance. D'autres boutiques où tu admets moins de gens à la fois, là, c'est peut-être 4-5 personnes qui arrivent au maximum. Alors, il n'y a pas eu de cohue, mais disons que c'est très, très variable pour ça. Et là, pour ce qui est des centres commerciaux, bon, à l'extérieur de Montréal, là, évidemment, on va rouvrir. Je peux comprendre aussi que durant la période de canicule, quand il fait bien chaud, un centre commercial, là, ça permet à des gens de pouvoir trouver un peu de fraîcheur. Là. Je comprends que l'idée, c'est pas d'aller flâner dans les... Mais tu sais, et pas juste les personnes âgées, des gens qui vivent en appartement, petit logement, ça surchauffe avec la température extérieure. Et les commerçants disent, il y a moyen de s'assurer de l'application des mesures sanitaires. Il y a plusieurs là, qui nous ont écrit là-dessus et qui disent, c'est quoi la différence entre un centre d'achat puis d'autres grandes surfaces qui sont ouvertes depuis le début? Et les gens peuvent se retrouver dans le mail, peuvent entrer, on peut contrôler, on peut s'assurer de la distanciation. Alors, mais pour ce qui est, donc c'est le 1er juin là, pour ce qui est des à l'extérieur de Montréal. Mais les autres, ben, ça devrait venir un peu plus tard. Il y a le ministre Pierre Fitzgibbon qui va faire un point de presse ce matin. Bon, parlons des autres nouvelles parce qu'il y a quand même des choses. Ce matin, je vais vous parler d'arnaque. Puis on sait, là, il y a plein d'arnaqueurs qui profitent de la crise. Je parlais avec Pierre Rivière, là, puis des gens qui, évidemment, volent des identités puis arrivent à être capables d'aller chercher la prestation canadienne d'urgence. Ça, quand on va faire le décompte, là, c'est sûr qu'il y en a des fraudeurs. Puis là, vous avez, ce matin, un autre cas dans le dossier Desjardins, dont on ne parle pas, là. Je sais que Marie-Laurence a fait des téléphones, mais pas moyen de savoir ce qui arrive avec l'enquête sur Desjardins. Alors, on a un courtier hypothécaire de Québec qui a payé 3 000 cash pour obtenir une liste de données personnelles et confidentielles avec à peu près 5 000 noms. Comment on sait ça? C'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec qui a tenu une audience et Marc-Olivier Tanguay a plaidé coupable d'avoir enfreint son code de déontologie en achetant ses renseignements. Puis il n'est pas le seul, là, il y en a d'autres. Comment ça se fait qu'on a pu traduire ces courtiers-là? Le clown qui est à l'intérieur de Desjardins a obtenu aussi facilement que ça ses données. C'est quand même assez particulier, non seulement d'y avoir accès, mais d'être capable de les copier. Là, on ne parle plus de rien, là. Sur l'enquête, y aura-t-il des accusations? Ça va faire un an là, qu'on est en train de patauger dans le scandale de cette fuite et ce vol de données concernant Desjardins. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est le rapport de la Ville de Montréal. C'est un rapport majeur qui a été publié hier. C'est un cas. C'est pas le rapport annuel de l'inspectrice générale, Mme Bishop, mais quand même. Alors, c'est quoi l'histoire? Ben, on va résumer ça de façon assez simple. Vous avez un gars qui s'est fait prendre par le bureau de la concurrence pour des opérations, évidemment, illégales. Et l'homme en question a repris du service, a créé une structure en faisant croire que c'était sa femme qui était la véritable présidente, mais dans le fond, c'est lui qui faisait ça. Et quand on dit que c'est une arnaque du début à la fin, là, d'abord, les prix. Pourquoi il est capable de faire de bons prix? Parce qu'il ne respecte pas les règlements. Deuxièmement, il ne fait pas de job tout le temps. Troisièmement, il se spécialise donc dans les boues usées, dans les égouts, dans les puisards. Et normalement, là, c'est une image, mais tu es supposé prendre les bouts, enlever l'eau, peser pour être capable de fixer le prix. Lui, il gonflait le poids en gardant l'eau. Et la cerise sur le sundae, il allait comme ça épandre en milieu agricole les bouts usés. Alors, non seulement c'est un voleur, c'est un arnaqueur, mais en plus de ça, il a été capable d'aller polluer à la campagne. Le gars s'appelle Michel Chalifou. Et l'agriculteur qui est impliqué dans ce dossier-là avec lui s'appelle, producteur, là, Pascal Pesant. Et dans la presse ce matin, ils ont suivi l'opération. Et ce qu'on découvre finalement, c'est que, contrairement à ce qu'ils devaient faire, aller à pas loin de 100 km dans un site désigné pour se débarrasser de ses bouts, bien lui, c'est pas ça qu'il faisait. Il allait pas très loin, prenait un petit rang dans le bout de Mirabel, puis il allait vider son chargement, tout simplement. On va parler avec l'inspectrice, Mme Bishop, un peu plus tard ce matin. Et un mot sur la fermeture de Saint-Laurent dans la petite Italie, ce qui n'avait aucun sens, là. Parce que c'est pas vrai que tout le monde s'en va là à pied ou à vélo. Il y a des gens qui vont là en voiture, malheureusement pour certains, mais c'est comme ça. Et donc, il semble que l'arrondissement a décidé, parce que là, on se rend compte que les commerçants sont pas contents, et que donc, on cherche un compromis. Alors, là, c'est annulé. Qu'est-ce qu'on va faire pour permettre aux gens de se déplacer plus largement sur la rue? On verra bien. Mais vous lirez Boisvert ce matin dans la presse, qui résume un peu l'état d'esprit, l'espèce de vent printanier qui a soufflé en disant « on tasse les chars, on bloque des rues, on ferme tout ce qu'on peut fermer, puis on y va, c'est le temps de le faire. » Mais parfois, ce n'est pas nécessairement la meilleure décision. Puis dans le cas de la petite Italie, là, quand vous parlez à des commerçants qui vous disent « ah, pas de tabarouette de bon sens. » C'est pourquoi on opère ça comme ça, puis la consultation monte, que c'est pas vrai, puis surtout là, la propagande et les faussetés charriées par la ville, par le bureau de la mairesse, concernant supposément l'acceptation de ce dossier-là. Alors, je rappelle donc, pour ce qui est de la fermeture de Saint-Laurent, j'allais dire c'est annulé. Disons que c'est peut-être repoussé, ou en tout cas c'est sur la glace, ou pour reprendre l'expression au Québec, c'est sur le mode pause. 6h23 minutes. Toujours la 13, Marc.